Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Le voyage vers Mars est un vieux rêve pour l'homme, beaucoup plus ambitieux que le voyage vers la Lune réalisé dans les années 1970 par le programme Apollo. Alors quels sont les obstacles qui se dressent devant nous pour envoyer des hommes sur Mars et surtout pour les faire revenir en bonne santé sur notre planète ? En réalité, les obstacles sont innombrables, mais les principaux freins actuels sont d'ordre technologique, financier et humain. Pour surmonter ces obstacles et acquérir toute la technologie nécessaire, il faudra certainement de nombreuses décennies. Partir sur Mars et revenir sur Terre, c'est le nouvel horizon vers lequel se tournent les acteurs majeurs de la recherche spatiale, qu'ils soient publics comme la NASA ou privés comme SpaceX. La NASA a relancé l'exploration humaine dans l'espace avec son programme Artemis, qui vise la Lune, mais aussi une mission habitée dans un futur proche, à l'horizon de la décennie 2030. Si SpaceX propose son Starship, la NASA, elle, étudie un moyen de réduire le temps de voyage dans l'espace, grâce à la propulsion nucléaire. Un des plus grands défis pour faire une mission martienne, c'est bien sûr le temps de voyage. Avec les technologies actuelles de propulsion à carburant liquide, il est possible d'y parvenir en 6 mois. Pour une mission habitée, ça reste un problème essentiel pour le physique et pour le mental des astronautes, notamment pour l'exposition aux radiations. Ça ferme d'emblée la porte à une exploration habitée plus lointaine du système solaire. Étant donné qu'on ne disposera pas dans un futur proche de l'USS Enterprise ou du Falcon Millennium, il faut néanmoins trouver un moyen de réduire drastiquement les temps de trajet des astronautes vers la planète rouge, sans pour autant alourdir le vaisseau en embarquant des dizaines de tonnes d'ergol liquide. La propulsion nucléaire, c'est une solution très avantageuse. Voilà deux concepts de propulsion nucléaire qui ont été étudiés jusqu'à présent. Le NTP repose sur un propulseur classique avec comme ergol de l'hydrogène liquide qui serait chauffé par un réacteur nucléaire embarqué. Ce puissant chauffage fait passer l'hydrogène à l'état gazeux, ce qui augmente drastiquement la pression qui est canalisée dans la tuyère. La poussée générée est très efficace. Le concept a été étudié par la NASA et l'US Air Force dès les années 1960. La propulsion NEP, elle, repose sur un réacteur nucléaire alimentant en électricité un moteur ionique. Cela génère un champ électromagnétique qui accélère des particules de gaz pour créer une poussée. Le gaz généralement utilisé, c'est le xénon. Retenu dans la première phase du programme NIAC de la NASA, le concept bimodal NTP-NEP est proposé par le professeur Ryan Goose, responsable du programme hypersonique à l'Université de Floride. Il suggère l'ajout d'un compresseur à onde de pression. Associé à un moteur NTP, le compresseur utilise la pression générée par le chauffage de l'hydrogène pour le comprimer encore plus et ainsi augmenter davantage la poussée. Avec un moteur NEP, la poussée est aussi améliorée. Selon Goose, ajouter ce compresseur à un système bimodal alliant NTP et NEP permettrait de réduire le temps de voyage vers Mars à 45 jours. On peut légitimement se poser la question de l'intérêt d'envoyer des hommes sur Mars, alors qu'on y envoie déjà des robots depuis de nombreuses années. Les agences spatiales lancent régulièrement des engins spatiaux automatisés, ayant pour objectif l'étude scientifique de Mars. Plus de 40 sondes spatiales, orbiteurs, atterrisseurs et rovers, ont été envoyées vers Mars depuis le début des années 60. Après un hiatus de presque 15 ans, il se lance depuis 1996 au moins une nouvelle sonde spatiale à chaque ouverture de fenêtre de lancement vers Mars, soit à peu près tous les 2 ans. Cet afflux d'engins, équipés d'instruments scientifiques de plus en plus sophistiqués et adaptables, a permis de recueillir énormément de données et d'effectuer de nombreuses découvertes. Malgré le progrès dans le domaine de l'électronique et de l'informatique utilisé sur ces engins robotisés, l'envoi d'un équipage sur le sol martien présente quand même plusieurs avantages importants. Des yeux humains identifient beaucoup plus vite le contexte géologique. Les roches, que ce soit visuellement ou en les manipulant pour déterminer leur type, leurs caractéristiques. La détermination des échantillons de roches en fonction de leur contexte géologique est aussi plus efficace. Ça permet de mieux sélectionner les échantillons qui ont un intérêt scientifique. Les humains manipulent aussi mieux les instruments d'analyse. Ils peuvent modifier le programme et les procédures et les prélèvements en fonction de leurs résultats. L'homme va aussi plus vite pour mesurer le terrain que les robots. En fait, le grand avantage, c'est que l'homme partirait non pas à la place des robots, mais avec les robots, permettant ainsi une meilleure utilisation de ceux-ci. Les robots martiens sont actuellement dirigés depuis la Terre. Compte tenu de la distance et du temps de latence, entre 10 et 20 minutes, l'utilisation des robots est fortement pénalisée. Si jamais le pilote était sur le sol martien, on aurait alors une seule seconde de temps de latence et on pourrait décupler la productivité du robot. Sur le long terme, notamment dans le cadre d'une base permanente, c'est le domaine des sciences du vivant qui pourrait particulièrement connaître un développement scientifique très important. Les humains pourraient tester des écosystèmes fonctionnant en atmosphère très différente de celle de la Terre, que ce soit en termes de pression, de composition d'air, ainsi qu'en pesanteur martienne, proche d'un tiers de la gravité terrestre. Des organismes génétiquement modifiés pourraient également être testés pour une meilleure adaptation aux conditions de vie martienne, d'abord dans des serres, puis en extérieur. L'établissement d'une base sur Mars nécessite de surpasser des conditions particulièrement hostiles. Les sondes et les robots nous présentent régulièrement l'environnement hostile de Mars. Et les scientifiques ont maintenant une idée assez précise de l'histoire de son eau, de son climat, de son sous-sol et des dangers potentiels à la surface de Mars. Des sites d'atterrissage possibles pour l'homme et des conditions de vie pour une mission habitée. Pour aller sur Mars, il faut être en bonne santé. C'est pourquoi la principale préoccupation des scientifiques, c'est de préserver la santé des hommes et des femmes qui voyageront en apesanteur. C'est dans les années 70 que les Soviétiques avec Soyouz 9 avaient testé des longs séjours dans l'espace. Après seulement 18 jours, les os et les muscles des cosmonautes s'étaient atrophiés. Ils avaient perdu 30% de leur masse musculaire. Depuis, dans les stations spatiales, les spationautes font des séries d'exercices plusieurs heures par jour pour maintenir leur masse musculaire. Cependant, la perte de masse reste quand même importante. Maintenant, les spationautes perdent à peu près 15% de leurs muscles pour environ 300 jours de voyage dans l'espace. Mais ce n'est pas le plus inquiétant pour la santé. Le stress engendré par les voyages de longue durée est énorme et l'équilibre psychologique est fortement perturbé par l'isolement. Le choix des hommes et des femmes qui partiront sera donc extrêmement sélectif, car ils devront tenir le choc plusieurs années. Une fois sur place, il faut prendre en compte des conditions de vie. L'atmosphère ténue de Mars contient du gaz carbonique et de l'azote. Les rayons solaires sont nocifs et comme sur la Lune, il faut se protéger du soleil. Et pas seulement avec une bonne crème solaire. Dans ces conditions, un scaphandre pressurisé est obligatoire. L'environnement de Mars est particulièrement hostile. Il n'y a pas d'oxygène et la température est à peu près de moins 60. Et pour minimiser le coût du voyage, la mission devra durer au moins 15 ans. Car les alignements les plus favorables entre la Terre et Mars, c'est-à-dire quand la distance est la plus courte, ne se produisent que très rarement. Il faudrait attendre la concordance de la périhélie de Mars et l'opposition des planètes. C'est une fois toutes les 7 oppositions, c'est-à-dire tous les 15 ans. Dans ces conditions favorables et avec de meilleurs moyens de transport dont je vous ai parlé en début d'émission, le voyage serait de 60 jours. 2 mois à l'aller et 45 jours au retour. Les astronautes seront confinés dans un caisson exigu et l'aspect psychologique de cet enfermement est vraiment difficile à gérer. Tous les humains n'en sont pas capables. D'ailleurs, en fait, très peu le seront. Il faudra vraiment faire une sélection drastique des candidats. Vivre pendant des mois en autonomie parfaite dans une capsule oblige à emmener de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture nécessaire pour le voyage. Pour un voyage de 2 mois, la masse d'oxygène, d'eau et de nourriture est gigantesque. Chaque jour, un homme consomme environ 1 kg de nourriture, 1 kg d'oxygène et 3 kg d'eau. Pour optimiser la charge, il faudra donc recycler l'eau et les déchets, embarquer un mini-écosystème terrestre qui permet la survie de l'équipage pendant ce long voyage. Pour l'oxygène, il faudra prendre le CO2 rejeté et produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse des plantes. Pour l'eau, il faudra recycler les urines. Pour la nourriture, il faudra recycler les déchets organiques, puis faire pousser des légumes dans les déchets. De plus, il faudra s'assurer qu'aucun organisme pathogène n'envahisse la capsule. L'équilibre psychologique entre hommes et femmes sera fortement mis à l'épreuve. Bien que les astronautes seront confinés dans un caisson exigu, face à leur enfermement, le voyage aller reste finalement la partie la plus simple de la mission. Car dès l'arrivée sur le sol martien, les candidats devront être autonomes et surtout rester en bonne santé. Et cette tâche est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. L'atmosphère de Mars est hostile. La luminosité est faible. Les radiations solaires sont nocives. Il n'y a pas d'oxygène, pas d'eau liquide. Moins 60 degrés de température, ça peut même descendre jusqu'à moins 130. Sur le sol désertique de Mars, rien ne pousse. Il faudra donc produire de l'énergie, de l'oxygène, de l'eau, de la nourriture, dans des mini-serres chauffées. Pour construire ça, il faudra beaucoup de matériaux. Et là, on n'a rien sur Mars. On ne pourra pas emmener des matériaux nécessaires pour construire une centrale électrique, une chaufferie, une réserve d'eau, une unité de traitement des eaux usées. Il faudrait aussi une salle radio, un laboratoire, un atelier, des bureaux, des chambres, des salles de sport, une cuisine. Pour être autonome, le projet MELISSA a pour objectif l'étude d'un écosystème de micro-organismes et de plantes. Cet outil permet de mieux comprendre le comportement des écosystèmes artificiels et le développement de la technologie pour un futur système régénérateur de survie pour des missions spatiales habitées de longue durée. Par exemple, sur une base lunaire ou une mission vers Mars. L'élément moteur de Mélissa, c'est la récupération de nourriture, d'eau et d'oxygène à partir des déchets, du dioxyde de carbone et de minéraux. Basée sur le principe d'un écosystème aquatique, Mélissa est composée de 5 compartiments colonisés respectivement par des bactéries thermophiles anoxygéniques, des bactéries photoaérotrophiques, des bactéries de nitrification, des bactéries photosynthétiques et les plantes supérieures et enfin l'équipage. Les déchets dangereux et polluants de l'air seront traités en utilisant les fonctions naturelles des plantes qui, à leur tour, fournissent de la nourriture et contribuent à la purification de l'eau et de l'oxygène. Reste encore l'étape du retour sur Terre. Ça reste la partie la plus obscure de la mission. Il faut attendre un saut technologique gigantesque pour l'envisager, car le décollage est une partie critique. Pour revenir sur Terre, l'équipage doit s'arracher à la pesanteur martienne, puis être injecté sur une trajectoire de retour vers notre planète. Plusieurs scénarios sont possibles. Dans le scénario dit direct, le vaisseau qui décolle de la surface de Mars est également utilisé pour le retour vers la Terre. Ça impose d'une part un vaisseau équipé pour permettre le séjour de l'équipage durant 6 mois de voyage et également capable d'effectuer une rentrée atmosphérique à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Et d'autre part, un lanceur suffisamment puissant pour propulser ce vaisseau en échappant à l'attraction de Mars. Ce scénario est celui de Mars direct, mais son manque de réalisme, parce que la masse à lancer est beaucoup trop importante, l'a généralement fait abandonner, au profit du scénario Mars semi-direct. Dans celui-ci, qui est préconisé par la NASA, le vaisseau lancé depuis la surface de Mars joue uniquement un rôle de taxi et vient s'amarrer au vaisseau placé en orbite autour de Mars et chargé de ramener l'équipage sur Terre. Le rendez-vous des deux vaisseaux constitue une des phases les plus risquées de la mission. Dans les deux scénarios évoqués, la fusée qui décolle de Mars utilise des ergols, en partie produits sur place grâce à une petite usine chimique extrayant l'oxygène de l'atmosphère martienne depuis l'atterrissage de l'engin sur Mars, soit pendant pratiquement 4 ans. Alors, est-ce que toutes ces conditions vous ont donné envie de tenter votre chance pour voyager sur Mars ?